Mis...
Philosophie du vivant, 20 octobre 1982, Père Philippe Rimond.
Alors c'est le jour des introductions, hein, aujourd'hui. On a introduit les différents secteurs de la philosophie. Ce matin, j'ai essayé de vous rappeler ce que devait être la philosophie. Maintenant, nous allons entrer dans un des secteurs de la philosophie du vivant. Et puis tout à l'heure, un autre secteur. Vous voyez bien, j'espère que petit à petit vous arriverez à comprendre comment il y a une recherche de philosophie première qui est au sommet. La philosophie du vivant, je ne dis pas qu'elle est au sommet, elle est en intermédiaire. Elle est intermédiaire de fait. Et puis, des philosophies de base qui sont les philosophies humaines et les philosophies pratiques. C'est comme ça qu'Aristote distingue, et je crois que c'est, on arrivera progressivement à montrer comment cette distinction d'Aristote, c'est bon de partir de là, cette distinction d'Aristote qui a été reprise par saint Thomas, entièrement, ça prouve qu'il ne la trouvait pas si bête, n'est-ce pas, et que de fait, je crois que nous pouvons la maintenir. Parce que toute la question est de savoir si le progrès de la biologie a changé quelque chose. Si le progrès de la psychologie a changé quelque chose. Vous voyez, nous sommes en face des sciences dites humaines aujourd'hui. Et ces sciences dites humaines, est-ce qu'elles vont modifier la philosophie du vivant? Est-ce qu'elles vont modifier la morale? Ça, c'est un très gros problème de critique. Il faudra nécessairement essayer de le comprendre au terme. Mais je ne le prends pas au point de départ, parce que je ne sais pas ce que c'est que la philosophie du vivant. Alors, je ne peux pas partir au départ. Il faut essayer de découvrir d'abord ce qu'on a appelé philosophie du vivant. Avant de la critiquer, il faut savoir ce que c'est. Alors, ça existait, comme la philosophie première. La philosophie première a existé, donc avant de la critiquer. Ce sont des a priori de les rejeter, parce que font quand même des gens intelligents les ont affirmés. Donc si des gens intelligents les ont affirmés, avant de les critiquer, il faut savoir ce que c'est. C'est déjà pas si commode que ça. Alors nous ne faisons pas de l'histoire, comprenez bien. J'essaie de me mettre à l'école d'Aristote pour comprendre ce que c'est que la philosophie du vivant. Situer la philosophie du vivant, c'est simplement ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Situer la philosophie du vivant dans la pensée d'Aristote. Alors, je continue un peu ce que j'avais vu ce matin, les deux cours se tiennent à ce point de vue-là, parce que nous regardons le point de vue d'Aristote. Vous voyez comment Aristote, partant de l'expérience, il continue. Un peu plus, n'est-ce pas ? Partant de l'expérience, puisque pour Aristote, toute philosophie part de l'expérience. À la différence de Platon, qui nous dit qu'une philosophie part de la réminiscence, d'une intuition ancienne, d'une contemplation ancienne, qui est la contemplation des formes en soi. Tandis qu'Aristote dit non, pas du tout, les formes en soi, ça n'existe pas. La réminiscence, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas faire baser la philosophie sur une simple hypothèse. Il faut partir sur l'expérience. Et alors, c'est pour ça qu'Aristote va essayer de voir quelles sont les grandes expériences de notre vie. Les grandes expériences de notre vie, pour Aristote, c'est assez facile à comprendre. C'est dès qu'on regarde un peu son système, on voit très bien que... Il y a la philosophie dite humaine. La philosophie dite humaine, ce sont les philosophies qui regardent directement l'action humaine. L'action humaine, c'est d'une part le point de vue de l'action volontaire, va aboutir au bonheur, à l'amitié, la filia. Et puis, l'action humaine, c'est aussi la poiesis. C'est-à-dire une action artistique. Celle-là ne regarde pas le bonheur, elle regarde une œuvre. Faute de bonheur, faisons une œuvre. Hein, c'est pas encore, ça se dit. Et c'est vrai, si on n'arrive pas à trouver le bonheur, mais faisons moins quelque chose, ce sera déjà quelque chose de bien. Et puis alors, il y a en plus, dans l'action humaine, l'action volontaire, le bonheur, il y a ce qu'Aristote appelle la politique. La politique, elle est ici. Hein. Au fond, c'est l'action éthique et politique se tiennent. Ça se distingue, ça se tient. Et puis, l'action artistique. Ceci repose sur mes expériences humaines. Bon, je ne vais pas développer ça maintenant, nous le reverrons tout à l'heure. Hein. Mais l'expérience humaine est aussi l'expérience de ce qui est mu, l'expérience de ce qui se meut. L'expérience de ce qui est mu, c'est le monde physique. Et l'expérience de ce qui se meut, c'est l'expérience du vivant. Le monde physique et le vivant. Et puis, l'expérience dernière, alors ça, Aristote le dit d'une façon qui n'est pas très explicite, mais je crois qu'on peut arriver facilement à le comprendre, ce sera le dernier aspect qu'il appellera la philosophie première. La philosophie première qui regarde le toon, c'est-à-dire ce qui est. Donc, il y a la philosophie de ce qui est mu, la philosophie de ce qui se meut, et la philosophie de ce qui est. Ici, nous sommes en présence d'une philosophie spéculative. Alors, vous voyez, c'est déjà ça quelque chose de très important, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, de voir que Aristote va distinguer face à Platon une orientation de l'intelligence spéculative et une orientation de l'intelligence pratique. L'intelligence pratique, c'est la philosophie humaine. Et cette intelligence pratique, cette intelligence qui se développe d'une façon pratique, c'est l'intelligence de l'action humaine, de l'activité humaine volontaire, personnelle ou politique, et de l'action proprement artistique. Et puis, l'intelligence va se développer d'une façon spéculative. Quand on dit spéculative, ça veut dire d'une manière contemplative. Ça veut dire que les spéculations, c'est quelque chose d'assez particulier dans le terme d'aujourd'hui. Tandis qu'avant, la philosophie spéculative veut dire une philosophie contemplative. Cette philosophie contemplative a trois niveaux de fait. Ce qui est mu, ce qui se meut, et la philosophie de ce qui est. Vous voyez, c'est une grande distinction très importante. Et pour lui, c'est toute la structure de la philosophie qui dépend de cette distinction. Alors, évidemment, si on fait sauter cette distinction à la manière de Marx. Pour Marx, il n'y a pas de distinction entre le spéculatif et le pratique. Que du reste, pour toute pensée dialectique. Pour toute pensée dialectique, il n'y a plus de distinction entre le spéculatif et le pratique. C'est ça qu'il faut bien saisir, parce que c'est très important à comprendre. Cette distinction du spéculatif et du pratique est-elle une distinction que nous devons maintenir? Ou est-ce qu'en face des idéologies contemporaines, en face de Hegel, on doit laisser tomber cette distinction? C'est une distinction ancienne ou est-ce que c'est une distinction réelle qui demeure toujours? Est-ce qu'on a changé depuis Aristote le nous, l'esprit, l'intelligence de l'homme? Ou est-ce qu'on ne l'a pas changé? Est-ce qu'il y a une petite opération qui a pu faire un petit changement entre le point de vue d'une pensée qui se veut à la fois pratique et spéculative, et une pensée proprement dialectique? Alors, ça, vous voyez, ça soulève un très gros problème. Hein. Il faut bien le voir, ça soulève un très gros problème. Un problème sur lequel il faut petit à petit, philosophiquement, découvrir la raison. Parce qu'on ne va pas répéter Aristote. Si on répète Aristote, c'est très bien, parce qu'Aristote est intelligent. Alors quand on répète quelqu'un d'intelligent, c'est déjà pas si mal d'essayer de comprendre. Mais répéter Aristote n'est pas de la philosophie. C'est l'histoire de la philosophie. Alors, je donne d'abord la position d'Aristote, puis après nous essaierons de comprendre que cette position d'Aristote a encore valeur pour nous. Oui. C'est là où les objections peuvent venir. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que je veux dire, et que vous avez des objections, notez-les. Parce que je ne vous demande pas de répéter ce que je dis. Hein. Je vous demande d'être philosophe. C'est-à-dire de penser. et de penser bien, en vue de la vérité. N'est-ce pas ? Alors, au début, on répète, c'est bien évident, on répète. Alors, vaut mieux répéter quelqu'un qui a cherché vraiment ce qu'était la vérité. Alors, nous répétons Aristote, nous disons ce qu'Aristote, ce que saint Thomas a fait. Donc, si je me mets à l'école de saint Thomas, je me mets à l'école d'Aristote. Et je me mets à l'école de cette petite distinction, qui est une distinction fondamentale, le nous, l'intelligence, l'esprit, pratique, spéculatif. Alors voyez, la grosse charge hegélienne et marxiste, pas de distinction entre la connaissance spéculative et la connaissance pratique. On est dans les idéologies. Et c'est net, vous savez, ça va très très loin, vous savez. Dix ans après la guerre, un Lefebvre a fait la distinction, qui était marxiste, qui était inscrit au parti, a voulu faire une critique de ce qu'a représenté la philosophie marxiste en France depuis la guerre. Eh bien, on lui a dit, vous ne faites plus partie du parti. N'est-ce pas ? Puisqu'au fond, vous faites quelque chose qui est en dehors du marxisme. Vous vous mettez à critiquer, indépendamment de la démarche dialectique. La critique étant quelque chose de spéculatif. Le spéculatif est bourgeois. N'est-ce pas ? Si on prend la dénomination. Alors, il est bourgeois, donc il ne signifie rien du tout, il signifie quelque chose qui est périmé, qu'il faut rejeter, ou non, plus exactement, qui n'est pas périmé, oui, qui est ancien, qu'il faut rejeter, et que nous devons découvrir autre chose par la dialectique. Alors, vous voyez que toute la structure de la philosophie, cette division de la philosophie pour Aristote, dépend de la philosophie spéculative et de la connaissance pratique. Cette distinction repose sur deux aspects, c'est que la finalité de l'intelligence spéculative n'est pas la même que celle de l'intelligence que pratique. La finalité n'est pas la même. C'est tout de suite la première distinction qu'on doit voir. D'un côté, on cherche la vérité pour elle-même. De l'autre côté, on cherche à rectifier une œuvre ou à réaliser une œuvre. C'est la très grosse différence. C'est que la connaissance spéculative a en elle-même sa propre finalité. Tandis que la connaissance pratique n'a pas en elle-même sa propre finalité. La connaissance pratique est toujours pour une action ou une œuvre. Ça, je crois qu'on peut assez facilement le saisir. Hein? Parce qu'on voit très bien comment il peut y avoir une connaissance qui est pour elle-même et une connaissance qui est pour autre chose que la connaissance. Ça, c'est la première distinction. Puis ensuite, on précise que la structure, donc la spécification en termes proprement philosophiques, la spécification, la détermination de la connaissance de la philosophie spéculative et de la philosophie pratique n'est pas la même. Et donc, il y a nécessairement des branches, des orientations philosophiques différentes. Alors, vous voyez, il y a une diversité dans la philosophie et en même temps une unité. C'est ça, le gros problème, ça. Gros problème. Alors, je présuppose admis cela. Je suis loyal. Hein? Je présuppose admis cela. Pour moi, c'est une évidence. Dès que vous avez compris qu'il y a deux finalités différentes. Et ça, la finalité différente, on peut tout de suite la saisir. La spécification différente, c'est plus difficile, parce qu'il faut connaître ce qu'est la philosophie pratique et ce que c'est que la philosophie spéculative, pour bien déterminer. Il est bien évident que l'être, vous ne le faites pas. Vous le contemplez. Tandis qu'une œuvre d'art, vous le faites. Ce n'est pas la même chose. D'un côté, l'intelligence est réceptive, de l'autre côté, l'intelligence domine. Donc, c'est deux activités tout à fait différentes. Il y a d'une manière, l'intelligence ordonne, et de l'autre côté, l'intelligence reçoit et contemple. Donc là, nous voyons deux activités très nettes de l'intelligence humaine. Si j'accepte cette distinction, je suis donc en présence de cette philosophie spéculative qui regarde d'abord ce qui est mu, le monde physique, le cosmos, ce qui est mu, elle regarde le corps, elle regarde la matière, on peut dire que c'est la philosophie de la matière. C'est la philosophie du corps, c'est la philosophie du cosmos. Et puis, il y a cette autre partie, une philosophie qui regarde ce qui se meut, le vivant. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de tout à fait différent entre les deux, du côté de l'expérience. Parce que ce qui est mu, je subis. Tandis que lorsqu'il se meut, j'ai le privilège d'assister, d'être témoin privilégié d'une réalité qui se meut. Vous voyez, c'est l'exemple classique et très simple. Quand vous montez un escalier, puis tout d'un coup vous manquez votre pied et vous dégringolez. Donc vous avez les deux expériences simultanées, hein, du moins successivement, mais qui sont proches. Quand vous montez l'escalier, vous avez l'expérience de quelqu'un qui se meut. Plus ou moins vite. Il se meut. Et ça, c'est l'expérience de lui, parce que quand je le regarde de l'extérieur, je ne vois pas très bien ce que c'est. Est-ce qu'il y a un moteur intérieur extrinsèque à lui qui fait que ça se meut tout seul? L'automobile, n'est-ce pas? Il est mobile par lui-même, et donc il se meut. Et vous savez très bien qu'après coup, ah, c'est autre chose, hein. En réalité, il ne se meut pas du tout, il n'est pas vivant. Tandis que vous avez l'expérience de pouvoir parler, vous lever, manger, vous vous mouvez vous-même. Et puis vous avez l'expérience de subir un mouvement. De subir, vous êtes mu. On vous jette par terre. Vous vous relevez, mais on vous jette par terre. Alors là, on est mu. Vous voyez, c'est pour essayer de comprendre, parce qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Avant Aristote, hein, on n'a pas fait de philosophie du vivant. Aristote est le premier d'avoir fait une philosophie du vivant distincte de la philosophie de la matière. Pour Platon, c'est mêlé. C'est très mêlé pour Platon. C'est intéressant de voir que là, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi y a-t-il quelque chose de particulier? C'est parce qu'il y a une expérience sui generis. Il y a l'expérience de celui qui se meut. J'ai une expérience particulière quand je suis dans cette attitude de celui qui se meut, parce que j'ai l'expérience interne que je suis capable de me mouvoir. Et de l'autre côté, je subis. Mais il y a quelque chose qui fait que je suis principe, je suis source de mon opération. Je parle. Ça ne veut pas dire quand j'entends, je suis du côté de la matière. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. J'entends, ça peut être très actif d'entendre. N'est-ce pas ? On peut entendre d'une manière très active, donc très attentive. Et à ce moment-là, on se meut aussi. Et on reçoit, mais on se meut. Tandis que si on s'affaisse, si on commence à dormir, à ce moment-là, on est moins attentif. Et si, en raison même qu'on se met à dormir, tout d'un coup on croule par terre, alors à ce moment-là, on est mu. N'est-ce pas? On est vraiment mu. On ne se meut plus. Et deux expériences que l'homme connaît. Quand je regarde la vache qui est en train de manger l'herbe. Est-ce que j'ai l'expérience que la vache se meut? Ou bien simplement, je constate de l'extérieur, je dis en fonction de ce que je connais moi-même, je projette sur la vache. Ça, c'est très important de savoir ça. Et c'est facile comme à tout ça de répondre, hein, parce qu'on ne se pose pas la question comme ça. Quand je vois un chien qui mord, je vois bien sa spontanéité. Et de temps en temps, quand j'ai envie de mordre, je vois bien que je comprends très bien. J'ai envie de mordre et je vois le chien mordre. Alors je dis, ça c'est une action vitale. Il se meut en mordant. Et il montre sa vitalité. Il montre son irascible de chien. Ah, vous connaissez l'irascible du chien? Ou bien vous le regardez de l'extérieur. C'est très curieux, ça. Est-ce que la philosophie du vivant n'est-elle pas nécessairement la philosophie de l'homme vivant? Là, il y a une question très importante à saisir. Tout de suite, dès le point de départ. Parce que ça va nous permettre de comprendre la méthode particulière du vivant, de la philosophie du vivant. Est-ce que, de fait, je peux avoir une philosophie du chien? le mouvement particulier du chien. Où est-ce que je projette? Je me connais, je connais mon irascible et mon concupiscible, je connais ce que c'est que de me mouvoir, je me connais ce que c'est que de fuir, je connais ce que c'est que d'être attiré par l'odeur alléchante du repas. Alors je suis attiré. Bon, et le chien fait quelque chose de semblable. Alors, est-ce que je projette? Est-ce que constamment je ne projette pas sur le chien ce que je sens? Est-ce que constamment je ne projette pas sur le chien mon mouvement? En réalité, je ne connais pas la vie du chien. Ça, c'est très important parce que ça fait comprendre la différence entre la philosophie du vivant et la biologie. Les sciences biologiques. Alors, dès le point de départ, voyons, on est devant quelque chose qui est vraiment un problème. C'est pas si facile que ça. Je vous demanderai d'écrire sur un papier oui ou non. Je sais pas ce que vous aurez comme réponse, c'est pas, et ça n'avancerait pas beaucoup du reste au point de vue de la vérité. Savoir s'il y en a plus qui disent oui, un peu moins qui disent non, ça ne changerait rien du tout. Mais c'est que, de fait, est-ce que je peux, en faisant une philosophie du vivant, pose tout de suite le problème pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette chose très particulière qu'Aristote, lui, fait en disant il y a une philosophie du vivant. Mais Aristote ne va pas jusqu'au bout de sa découverte et on va aller plus loin. Parce que pour bien montrer qu'on ne copie pas Aristote, hein, on ne va pas reprendre le De Anima. C'est merveilleux le De Anima. Hein. Et si vous pouvez le lire, ça fait partie de ces livres extrêmement intelligents qu'Aristote a écrit. Mais c'est pas commode, du reste, c'est difficile. Mais on ne va pas répéter le De Anima, ce serait du reste imbuvable, hein, le De Anima comme ça. Il faut reprendre autrement. Alors la grosse question qui se pose ici, est-ce que quand on dit qu'il y a une philosophie particulière de celui qui se meut, donc du vivant, quand on dit qu'il y a une philosophie particulière du vivant, est-ce qu'au fond cette philosophie n'est-elle pas propre à l'homme vivant qui a une expérience unique de sa vie? J'ai une expérience unique de mes opérations vitales, mais je n'ai pas une expérience la même chez mon voisin. Même quand je vous regarde bouger, c'est pas moi qui bouge, c'est vous. Alors parce que je bouge moi aussi, je dis bon, très bien, je vois très bien. Je vois quelqu'un qui a toujours un tic, qui fait toujours le même mouvement. Toujours le même mouvement. Alors je dis bon, très bien, je vois très bien ce que c'est. On sait très bien ce que c'est. Ces mouvements qui ne sont pas conscients. Mais quand ça devient trop fréquent, on dit mais quand même, hein. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Il est incapable de rester immobile et tout le temps en mouvement. Il pédale tout le temps. Ça peut arriver, ça. Je connaissais un professeur comme ça qui faisait de la moto dans sa chambre. Vous faisait sa moto parce qu'il avait besoin de bouger tout le temps. Alors qu'il ne pouvait pas sortir, il faisait sa moto. Est-ce que c'est encore du vivant, ça? Ou est-ce que c'est plus du vivant? Est-ce que quand je vois le chien, est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que je peux faire la philosophie du chien comme vivant? Ou est-ce que je suis obligé de partir de l'homme? Et une fois que j'ai la philosophie du vivant de l'homme, je le projette sur tous les autres animaux. Mais en projetant, je sais très bien que ça ne m'apporte rien du tout. La vitalité du chien ne m'ajoute rien du tout à la vitalité de l'homme. Ça, c'est un problème aussi qui est intéressant à poser. Est-ce que la vie du chien m'apporte quelque chose de nouveau par rapport à ma connaissance du vivant? Ou est-ce que ma connaissance du vivant est celle de l'homme actuel, de moi-même? Et pas mon voisin, mais de moi-même. Alors voyez, c'est intéressant à se poser, parce qu'alors, est-ce que la philosophie du vivant implique-t-elle une méthode nouvelle d'introspection? Je dois réfléchir sur mes propres activités, sur mes propres mouvements, pour essayer de comprendre ce qu'il y a de propre au vivant. Je ne mesure pas de l'extérieur le vivant, je le saisis de l'intérieur. Et je le saisis de l'intérieur pour saisir ce qui est qualitatif, ce qu'il y a de propre au vivant. Si je ne saisis pas de l'intérieur, je ne saisis plus ce qui caractérise le vivant. Je ne saisis que matériellement. Oui, il faut se poser ces questions-là pour essayer de découvrir, parce que c'est ça qui m'intéresse au point de vue philosophique. Je vous affirme que là, on touche un problème fondamental. Je vais tout de suite essayer de vous le montrer, parce que c'est très important pour nous, ça. Quand Aristote fait le traité de l'âme, le péripsuchès, le traité de l'âme, le Péripsychèse d'Aristote, qui est un très beau traité, le traité de l'âme, que saint Thomas commentait. Dans la ligne de saint Thomas, parce que saint Thomas a commenté le Péripsychèse. Et saint Thomas a essayé de comprendre ce que c'était que le traité de l'âme. Quand Aristote écrit le traité de l'âme, est-ce qu'Aristote, pour Aristote, y a-t-il une méthode particulière distincte de sa physique? Philosophie de la matière, philosophie de ce qui est mu. Je crois profondément, et même j'en suis sûr, qu'il y a pour la philosophie du vivant quelque chose d'irréductible à la philosophie du non-vivant. Il y a quelque chose d'irréductible. Il y a une expérience nouvelle comme expérience qui ne peut pas se ramener à l'autre expérience. Parce qu'il y a une expérience d'intériorité. Vous saisissez l'opération vitale de l'intérieur. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de celui qui est mu, vous saisissez toujours de l'extérieur. C'est pour ça que je prenais l'exemple, tout simplement, celui qui dégringole l'escalier, celui qui le monte. Ça paraît bête, mais c'est exactement ça. Il y a un partage des eaux très net. D'un côté, on se meut, et de l'autre côté, on est mu. On est mu, on est attiré par autre chose, et on ne va pas là où on voudrait aller. Tandis qu'au contraire, lorsqu'on se meut comme vivant, on s'oriente, et on sait très bien où on va. C'est très intéressant à voir, ça, parce que si la philosophie du vivant a quelque chose d'irréductible à la philosophie, tout simplement de la nature, de la matière, on comprend alors que cette philosophie du vivant demeure intacte même avec le développement de la biologie contemporaine. Alors c'est ça le gros problème, hein, c'est ça le gros problème, c'est un des gros problèmes. Hein. Dès qu'on parle de la philosophie du vivant, c'est la grosse question, c'est de savoir est-ce que la biologie contemporaine n'est-elle pas la philosophie du vivant que je dois mettre. Alors, je vous rappelle ici une petite expérience personnelle, parce que ça m'a beaucoup marqué, ça m'a intéressé beaucoup et j'ai beaucoup réfléchi depuis. C'était avec le professeur Marois. C'était pas loin d'ici, c'était tout près de Paris, c'était à Poissy. Et le professeur Marois, invité par une trentaine de polytechniciens, donc des hommes durs, hein, alors une trentaine de polytechniciens, lui demandant d'exposer la politique de la vie. Pendant 3 heures, il nous a exposé la politique de la vie. C'était admirable, c'était merveilleux, c'est extraordinaire. Politique de la vie, fruit de la science biologique d'aujourd'hui. Alors c'était le jeu, après on m'a demandé, parce que j'étais là comme philosophe, on m'a demandé maintenant, que dit le philosophe ? Vous savez, quand on est en face d'un biologiste aussi brillant que Marois, et qui donne des choses très étonnantes, c'est merveilleux, c'est étonnant de voir ça, tout ce qu'on a découvert au niveau biologique aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va abdiquer, dire au fond, ben vous le dites très bien, la philosophie du vivant, c'est avoir réfléchir sur les résultats du biologiste et avoir une métabiologie. Comme il y a une métaphysique, on va avoir une métabiologie. Quelque chose qui va aller au-delà de la biologie, mais je prends les conclusions. Alors, j'ai tout de suite posé le problème de cette manière, parce que je crois que c'est comme ça qu'on doit le poser. Les résultats que me donnait le professeur Marois provenaient tous, c'était tous des résultats provenant d'expériences, de recherches, avec des instruments très perfectionnés, des microscopes électroniques qui pouvaient aller le plus loin possible, pour arriver à saisir l'infiniment petit. Donc on ne voyait pas à l'œil, c'est évident. C'est vrai que vous regardez une main, vous voyez une main, mais si vous commencez à couper les tissus, à bien les regarder, vous voyez des quantités de choses que vous n'avez jamais vues. Vous voyez donc l'invisible à la place de voir le visible. Hein. Alors vous pourriez dire, vous voyez, la biologie, elle voit l'invisible, alors que vous, vous regardez que le visible. Et c'est très vrai que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant de voir que tous ces résultats relèvent d'un instrument et dépendent de l'instrument. Pourquoi le philosophe quand il fait la philosophie du vivant, ne prend pas ces mêmes instruments. Il ne les prend pas. Autrement, il n'y aurait plus de philosophie du vivant. Il n'y aurait plus qu'une science biologique. Vous voyez, tout de suite, j'espère, vous allez saisir. C'est que par le microscope électronique, je ne saisis pas le vivant de l'intérieur. Je saisis de l'extérieur. Je mesure ses réactions, je mesure c'est au fond une étude de la matière, ou plus exactement de la disposition dans la matière vivante. Et j'essaie d'étudier la matière vivante. Comme disait quelqu'un, pour connaître le vivant, il faut le tuer. Et c'est vrai, parce qu'on ne peut le connaître que quand il est mort, autrement il ne faut pas le connaître. Je le connais de façon, oui, on peut reconnaître quelque chose. Maintenant, on fait des applications.
Philosophie du vivant, Père Philippe.
Je ne peux pas le connaître. Je le connais de façon, oui, on peut reconnaître quelque chose. Maintenant, on fait des applications, mais au fond, pour le connaître vraiment, pour connaître son tissu, ben, il faut analyser du sang. Ben oui, quand vous faites une analyse du sang, c'est bien évident, vous n'allez pas le réintroduire après, mais c'est le sang est vivant quand il est en moi. Et puis dès que je le prends, et vous faites une analyse à ce moment-là, après. Alors vous voyez, la méthode scientifique biologique, elle prend le vivant dans la ligne de ce qui est mesurable par l'extérieur. Alors que la philosophie du vivant, et ça je crois que c'est propre du caractère de la philosophie du vivant, c'est que on essaie de saisir l'homme vivant à travers ses opérations. Dans ses opérations. D'un côté, j'ai saisi l'infiniment petit, et je vais de plus en plus loin pour saisir l'infiniment petit. De l'autre côté, je m'arrête à l'homme. Le philosophe regarde l'homme vivant. Et c'est de comprendre de l'intérieur, c'est pour ça que je ne peux plus employer un microscope. Impossible. J'ai saisi de l'intérieur ma propre opération. J'essaie de comprendre ma propre opération. Ça ne veut pas dire que les développements de la science n'ont aucun intérêt au point de vue philosophique. Faites attention. Ici, j'essaie de montrer que la philosophie du vivant demeure même avec le développement de la biologie. Autrement dit, le développement de la biologie ne supprime pas le problème de la philosophie du vivant. Le problème de la philosophie du vivant implique une expérience que je ne retrouve plus dans le développement de la science biologique. Une expérience impliquant le jugement d'existence. Mais une expérience de celui qui se meut, de celui qui voit, de celui qui parle, de celui qui mange. Il y a une certaine expérience interne. C'est là où il faut saisir ce que représente cette philosophie du vivant. C'est par une méthode de réflexion sur ma propre vie que je découvre une dimension que la science biologique ne peut pas mesurer. J'ai conscience de mon activité vitale. J'ai une certaine conscience de mon activité vitale. Tandis que si je la mesure de l'extérieur, je mets entre parenthèses cette conscience. Alors vous allez dire, vous tombez dans un subjectivisme absolu. C'est l'autre danger. Tandis qu'au contraire, au moins la science biologique est une objectivité parfaite. Alors, c'est plus de science. Vous décrivez vos états d'âme. Donc la philosophie du vivant, ça consiste à décrire ses états d'âme. Je suis ému ce matin, à midi ça va un peu mieux, et puis le soir, je commence à encore aller beaucoup mieux parce que je m'assoupis. Alors mes sentiments sont différents dans la journée. Mais la philosophie du vivant est-elle une philosophie des sentiments? Est-elle une philosophie de la pure affectivité? Est-elle une philosophie purement subjective? Non. Elle implique un élément subjectif. C'est ça qui est très très curieux. Elle implique un élément subjectif. Mais elle saisit, elle essaie de saisir une opération vitale de la manière objective. Et pas subjectivement. C'est ce qui fait que le statut de la philosophie du vivant a quelque chose d'unique. Aristote l'a senti, il l'a développé, ça c'est sûr, il a bien senti qu'il y avait quelque chose, mais il n'a pas été jusqu'au bout. De sorte qu'il a laissé la philosophie du vivant à l'intérieur de la philosophie de la nature. Et il a fait ce blocage, très curieux. Ça, alors, je crois qu'il y a toute une donnée traditionnelle derrière. Il a fait ce blocage, philosophie de la nature et philosophie du vivant se tiennent. Alors, c'est à l'intérieur de la philosophie de la nature, donc à l'intérieur de la philosophie de la matière, qu'il précise la philosophie du vivant. C'est à l'intérieur. Alors que je crois qu'on devrait faire, je le dis là, on est obligé au début de réfléchir sur ces différents aspects pour mieux comprendre. Je crois qu'on devrait faire aujourd'hui la philosophie de ce qui est mu, c'est la philosophie donc du devenir. Puisque c'est la philosophie de la matière, tout devenir est lié à la matière. Et puis la philosophie première, c'est la philosophie de ce qui est. Considéré en tant qu'être. Ces deux philosophies spéculatives sont distinctes, puisque l'une étudie le devenir, l'autre étudie l'être. Et donc elles sont tout à fait distinctes, elles ne s'opposent pas, mais elles se distinguent pleinement et totalement. C'est tout à fait autre chose d'étudier le devenir et d'étudier l'être. Donc ces deux philosophies ont deux aspects très très différents. La philosophie du vivant va être comme une synthèse du devenir et de l'être. Et donc elle vient en quelque sorte au terme. Et c'est, je crois, l'intérêt de la philosophie du vivant. La philosophie du vivant va impliquer un caractère d'immanence dans sa recherche. L'opération vitale est toujours immanente. Alors que le devenir n'a rien d'immanent. La matière s'oppose à l'immanence. Et ça, c'est vrai, scientifiquement, on voit très bien. Il y a les deux aspects tout à fait différents. La matière implique justement, toujours un procédé de dégradation, parce qu'elle est source du devenir, et que le devenir laissé à lui-même se dégrade. Tandis qu'au contraire, le vivant, en lui, une source de renouveau constant. Le vivant est capable de se renouveler, il est capable de procréation, il est capable de génération. Et donc il se renouvelle, il reprend, pas du tout du point de vue de la matière. Il y a là donc quelque chose de totalement différent entre le devenir, qui est la juxtaposition, le domaine de la matière, qui est le domaine de la juxtaposition, le domaine de la quantité, juxtaposition, et le domaine du vivant, l'immanence. Et grâce à cette immanence, le devenir vital va avoir une certaine similitude avec l'être. Parce qu'il demeure. Vous voyez, la stabilité. Hein. La stabilité va du côté de la philosophie première. Il n'y a que l'être qui est stable. Le devenir, par définition, n'a aucune stabilité. Il est dans le changement. Et le changement constant. Le pantarei hein, d'Héraclite. Tout coule, tout change. Bien, quand vous prenez tout change, vous ne saisissez plus l'être. Et le vivant, ce n'est pas vrai que le vivant tout change. Il y a quelque chose qui demeure. Il y a quelque chose qui demeure dans le vivant. Il y a une immanence dans le vivant. De sorte que le vivant apparaît comme une synthèse très curieuse, très spéciale, entre le devenir et l'être. C'est bien une synthèse des deux. Et je crois que c'est important à souligner ça, parce que toute philosophie du vivant ne pourra plus distinguer le devenir et l'être. Toute philosophie du vivant qui se veut absolue, qui veut être qui veut tout ramener à la philosophie du vivant. Et quand je prends la philosophie du vivant comme étant la philosophie, alors à ce moment-là, la distinction entre devenir et être ne pourra plus se faire. Et elle ne sera plus. Je serai uniquement devant une philosophie du vivant, de ses opérations vitales et de l'immanence du vivant. Donc il faut essayer de comprendre hein, que la philosophie du vivant, vous voyez, si je la place dans cette perspective d'Aristote, il y a quelque chose que je ne mets pas assez en lumière. Je crois qu'il faut mettre, donc, de cette manière-là, philosophie de la nature, de la phusis. Philosophie de la nature, c'est-à-dire philosophie de la matière. philosophie première, de ce qui est en tant qu'être, puis philosophie du vivant. La philosophie du vivant tient de la métaphysique, de la philosophie première, et elle tient de la philosophie. Elle est liée aux deux. Parce qu'elle fait synthèse du devenir et de l'être. À l'intérieur, il y a quelque chose des deux. Alors, Aristote a pressenti ça. Il l'a pressenti. Ça, c'est assez net. Mais il ne l'a pas explicité entièrement. Et je crois que c'est très important de bien expliciter, de comprendre que la philosophie du vivant implique quelque chose d'immanent, irréductible au devenir. Et cette immanence du vivant est liée à l'être. On le verra mieux progressivement. Et c'est pour vous montrer que ce n'est pas si commode que ça, aujourd'hui, de légitimer une philosophie du vivant. Il faut la déterrer d'Aristote, il faut voir comment s'est posé le problème chez Aristote, il faut voir qu'en fonction de la philosophie que de la science biologique d'aujourd'hui, on doit essayer de maintenir cette philosophie du vivant, en comprenant que la philosophie du vivant, ce n'est pas la philosophie du vivant, de n'importe quel vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. C'est ça qu'on devrait dire, c'est la philosophie de l'homme vivant, ce n'est pas la philosophie du vivant. Ce n'est pas n'importe quel vivant que j'étudie. Non. Je ne peux pas partir de n'importe quel vivant venir à l'homme. Vous voyez, tandis que dans la science biologique, je peux le faire. Parce que je saisis le vivant de manière extérieure. Tandis qu'au contraire, je saisis le vivant à partir de l'homme parce que j'ai conscience de cette opération vitale, caractéristique, qui est justement l'opération de l'homme vivant. Et une fois que je comprends ça, je vois qu'en effet, cette philosophie a cette chose particulière, c'est qu'elle est liée d'une part au cosmos, elle est liée d'une part à la philosophie de la matière, elle est liée d'autre part à la philosophie de l'être. Elle a donc un statut tout à fait particulier. Il y a donc une méthode propre à la philosophie du vivant. Chaque partie de la philosophie a sa méthode propre. Et c'est ça la difficulté. C'est que la dialectique, on est à ceci très pratique, c'est toujours la même méthode. Il y a des niveaux différents, c'est bien évident, mais c'est toujours la même méthode, avec des niveaux différents selon que vous prenez telle ou telle matière à transformer. Tandis que ce qui caractérise, et ça je crois qu'on peut tout de suite le saisir, ce qui caractérise la philosophie réaliste, c'est que les diverses parties de la philosophie ont toutes une méthode propre. La philosophie de la nature, c'est-à-dire la philosophie de la matière, n'a pas la même méthode que la métaphysique et n'a pas la même méthode que la philosophie de l'homme vivant. Quant aux philosophies pratiques, c'est bien évident. Elles n'ont pas du tout les mêmes méthodes. Parce qu'elles sont dans l'ordre pratique, tout simplement. Alors, voilà la première chose que nous devons essayer de comprendre. Philosophie du vivant inventée par Aristote. Puisque les devanciers d'Aristote n'ont pas fait une philosophie du vivant distincte de la philosophie de la nature et des autres parties de la philosophie. Aristote découvre qu'il y a quelque chose d'original dans la philosophie du vivant, et ce quelque chose d'original dans la philosophie du vivant, il essaie de mettre en pleine lumière. C'est ce que nous essaierons de faire. Alors, qu'est devenue cette philosophie du vivant au cours de l'histoire de la philosophie ? On la trouve chez Saint-Amand, parce que Saint-Amand commente Aristote. Vous savez, très vite après Aristote, on l'a plus découvert. Vous ne la retrouvez plus chez les stoïciens. Et vous ne la trouvez pas non plus distincte d'une philosophie première chez Platon. Le néoplatonisme, est-ce qu'il ne se caractérise pas par la confusion de l'être et de la vie? Pose un point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas ça qui caractérise le néoplatonisme ? Est-ce que ce n'est pas ça qui caractérise l'ontologisme ? Alors là, ce serait très intéressant si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est très intéressant de découvrir que le néoplatonisme a un manque de distinction entre devenir, vie, être. Un manque de distinction entre ces trois. Ce qui est mu, ce qui se meut, ce qui est. Le néoplatonisme de Plotin, et puis le néoplatonisme ensuite qui s'est prolongé dans l'ontologisme, on retrouve toujours la même confusion entre le point de vue de la vie et le point de vue de l'être. Philippe Venier. Alors, c'est intéressant parce que l'ontologisme a donné naissance aux idéologies athées. Et les idéologies athées, donc, on ne peut y répondre qu'en revenant à la distinction de l'être et de la vie. C'est pour ça que c'est une chose très actuelle, ça. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, hein, mais vous le verrez progressivement, que c'est une chose très actuelle de faire la distinction entre ce qui est et ce qui se meut, et ce qui est mu. Si je ne fais pas cette distinction, je ne peux pas répondre aux idéologies athées d'aujourd'hui. Parce que les idéologies athées ont le même fondement que l'ontologisme. L'ontologisme, c'est déjà une idéologie. Alors, un mot là-dessus, parce que c'est quand même intéressant à saisir. Bon, les idéologies commencent par la réflexion sur nos idées. Alors, qu'est-ce que c'est que les idées? C'est le fruit d'un vivant. C'est pas l'être. C'est le fruit d'un vivant. Et donc, vous commencez par le fruit d'un vivant. Et vous demeurez dans une philosophie du vivant. Vous ne pouvez dépasser le point de vue de la vie qu'en découvrant l'autre. C'est-à-dire qu'en découvrant ce qui est. Ce qui devient distinct de ce qui est. Et distinct de ce qui sont. Si votre philosophie commence par l'idée, vous restez dans une philosophie vitale, du vivant spirituel, c'est bien évident, la substance pensante de Descartes. Et je reste dans une philosophie d'une substance pensante. Je n'arrive pas à découvrir ce qui est dans son originalité propre. Je reste au niveau du vivant. Vous voyez que ça, au point de vue philosophique, la philosophie du vivant d'Aristote n'a été qu'un moment. Je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a comme philosophie du vivant. On voit des philosophes qui se laissent prendre par une métabiologie, je comprends très bien, c'est très séduisant. Je vois des philosophes qui se laissent prendre par le point de vue de la psychologie, c'est aussi très séduisant. Mais il n'y a plus de philosophie du vivant. La philosophie du vivant a disparu beaucoup plus vite que la métaphysique. Historiquement, je parle. Hein. Beaucoup plus vite. Elle a existé à un moment. C'est très curieux. Elle a émergé à un moment. Le péripsychèse, ça existe. Alors, on l'étudie encore historiquement. C'est intéressant, ça, c'est intéressant. Mais on ne peut pas dire qu'actuellement, il y a une philosophie du vivant. Alors que ça, ce serait tellement important face à la biologie, face à la psychologie. Et vous le verrez progressivement, j'essaierai de vous souligner combien il y a là quelque chose d'absolument indispensable. Redécouvrir ce que c'est que l'âme humaine. Ben, la biologie ne nous le dira jamais. Elle ne peut pas nous le dire. Redécouvrir ce que c'est que l'âme humaine. Je me souviens, c'était dans un voyage à Athènes, j'étais avec des physiciens, des mathématiciens, mais c'était surtout les physiciens et les biologistes. Ils étaient tous orthodoxes, ils se disaient tous religieux, croyants. Mais ils me posaient la question, ils m'ont posé la question à la fin du repas, parce qu'on était suffisamment liés, et le petit vin grec aidant, n'est-ce pas ? Alors à la fin du repas, ils m'ont posé la question, peut-on aujourd'hui, face à la biologie, affirmer l'immortalité de l'âme. Directement comme ça. Je dis, mais est-ce que vous êtes croyant? Je dis, oui, ils disaient, oui, nous sommes croyants. Alors, vous ne croyez pas l'immortalité de l'âme? Est-ce qu'on peut encore le dire? Est-ce qu'on peut encore l'affirmer? On est en face du progrès de la biologie, tout semble s'expliquer par la biologie. On est en phase du venir de l'embryon et on ne voit pas. Il n'y a pas d'âme spirituelle. Il n'y a plus d'esprit. Alors on ne peut pas l'affirmer. Et si vous pouvez donc affirmer uniquement une matière vivante. une matière vivante extrêmement complexe, une matière vivante extrêmement intéressante sur laquelle on peut agir, c'est extrêmement intéressant, mais on ne peut plus affirmer, on ne peut plus parler d'âme. Alors, peut-on parler encore de l'âme? Oui, c'est une autre manière de regarder le problème de la philosophie du vivant. Peut-on encore parler de l'âme au plan philosophique? Ou bien est-ce qu'on est obligé de se réfugier au point de vue de la foi, dire seul le croyant peut parler de l'âme? Seules les traditions religieuses peuvent parler de l'âme. En effet, il faut bien se le dire, hein, la distinction de l'âme et du corps est premièrement dans les traditions religieuses. Ce sont les grandes traditions religieuses qui ont fait la distinction entre l'âme et le corps. Toutes les grandes traditions religieuses, avec des termes différents, mais toutes les grandes traditions religieuses prennent la distinction de l'âme et du corps. Alors, ces traditions religieuses, on le sait très bien, impliquent des mythes plus ou moins caché, ou alors vous êtes dans la foi, vous êtes en face d'une révélation. Le chrétien doit affirmer la distinction de l'âme et du corps. Je ne vois pas très bien comment je prends votre chrétien si je n'affirme pas la distinction de l'âme et du corps. Or, aujourd'hui, vous savez bien, certains la rejettent. Il n'y a plus de distinction de l'âme et du corps. S'il n'y a plus de distinction dans toute une perspective philosophique, on ne peut pas accepter la distinction de l'âme et du corps. Alors, pouvons-nous encore, en traitant la philosophie du vivant, mais si par le fait même, maintenir une distinction de l'âme et du corps. Pouvons-nous encore parler de l'âme spirituelle? Qu'est-ce que c'est que l'âme spirituelle? Oui, ceci c'est pour vous montrer combien ces questions sont actuelles. Ça, c'est très très actuel. Si vous ne voyez pas ça, vous serez en face de certaines théories qui se disent aujourd'hui. La distinction de l'âme et du corps, c'est une distinction grecque. C'est une distinction thomiste et une distinction grecque. C'est une distinction qui est complètement dépassée. Puisqu'elle est complètement dépassée, il ne faut plus la prendre. Il s'agit tout simplement de comprendre au contraire la complexité du vivant, de la matière vivante. Comprendre cette complexité, et puis pas ça. Ne voir rien d'autre que ça. Alors que si vous acceptez, ce que nous allons faire l'effort, ce qui n'est pas commode, d'une philosophie du vivant, si on accepte vraiment qu'une philosophie du vivant existe, on va tout de suite découvrir ce principe radical de notre vie, ce que nous appelons âme. Et on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est que l'âme. On essaiera de le saisir philosophiquement, non pas par la foi, non pas par le point de vue des traditions religieuses, mais saisir philosophiquement qu'est-ce que c'est que l'âme. Le ti esti de l'âme. Je m'arrête et puis ça, on verra ça le mois prochain. Et je voulais au moins vous montrer historiquement comment s'est posé le problème et la complexité du problème aujourd'hui. Alors il faut y réfléchir. Ça, c'est une question de très grande réflexion qui est importante. Je ne veux pas entrer trop dedans parce que ce serait beaucoup plus de la critique, mais il faut au moins voir la complexité du problème et puis voir l'importance, l'enjeu est très grand, puisqu'il s'agit de sauver, si vous voulez, ou de légitimer, ou de comprendre la distinction de l'âme et du corps.